France Inter, le 7-9.
On parle, Claude, de John Garfield.
Qui, à Hollywood, dans les années 40, Nicolas, jouait les rebelles et fut l'amant assassin du facteur Sonne toujours deux fois. Mais alors, un petit Français le regardait au cinéma épaté. « Si un jour je fais du cinéma, je voudrais John Garfield », se disait Alain Delon, qui s'en souvient encore aujourd'hui dans Paris Match. Garfield, c'est le premier, le seul qui m'est fasciné. Aujourd'hui, les gens ne savent même plus qui c'est. Et cette évocation est peut-être le meilleur de la longue interview de Delon que publie Match, verbatim d'un entretien filmé que la star de 85 ans accorde à Philippe Viguier et à TV5 Monde. On ne l'avait
Cyril
plus entendu
Viguier.
Delon. Cyril Viguier, bien sûr. On ne l'avait plus entendu Delon, merci Léa, depuis deux ans quand un AVC l'avait frappé en juin 2019. Mais le revoilà, de bouche mise claire. Le visage se ressemble-t-il encore? Le cheveu est si fin. Et puis des mots bougons parfois ou tendres. Il parle de ses femmes, Romy, Mireille, Nathalie, qui sont mortes, mais je sais, dit-il, qu'elle m'attend de là-haut. Il dit Delon vouloir un dernier film qui restera pour toujours. Ce serait avec une femme. Il rêve de Lisa Azuelos, la réalisatrice de L'Ira-t-elle. Delon parle aussi des acteurs d'aujourd'hui. Ce n'est pas généreux. On lui dit Jean Dujardin, il répond pfff. On lui dit Omar Sy, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais il aime bien Vincent Cassel. Il aimait bien son père et donc il admira Garfield. Et on voudrait lui poser d'autres questions à Delon, l'homme de droite qui le revendique. Car Garfield, lui, fut un acteur engagé de gauche, qui fut persécuté dans l'Amérique anticommuniste des années 40 et épuisé, mourut d'une crise cardiaque. Mais un homme se souvient de lui, un homme si vieux qui ne pense pas comme lui, mais ils font le même métier.
On parle aussi de retraités.
Et c'est une étrange coïncidence, car dans Match, Delon se souvient aussi qu'il fut charcutier. Et ce sont deux charcutiers que nous raconte l'Obs dans un papier terrible sur le surendettement. Deux charcutiers, donc, qui dans leur petite ville avaient passé leur existence à se lever à 3h du matin pour faire cuire les pavés en croûte et qui à la retraite ont cru pouvoir en profiter. Vêtements de mode, un 4x4 et surtout gâter les enfants, les petits-enfants. Mais Marie et Jeannot finançaient leur vie dans un enchaînement de crédits qui un jour les ont submergés. Et le 24 décembre dernier, ils ont décidé de ne pas aller au réveillon de Noël familial où cette fois ils seraient arrivés les mains vides. Et ils se sont endormis pour toujours, et près d'eux dans une pochette était la liste incomplète des créances qu'ils laissaient. CTLM 11 000, CTLM 6 700, Mercedes 13 000, Orange Bank 6 000, Sofinco 10 000, Financo 5 500, il en manquait encore. Le fils de Marie et Jeannot a donné à l'Obs l'accès aux comptes, aux lettres, aux mails de ses parents et vous lirez alors comment on se perd par fierté dans de pauvres ruses. En 2020, les nouveaux crédits ne couvraient plus les anciens. Début décembre, Marie et Jeannot, harcelés, avaient pourtant envoyé un mail à la famille. « Envoyez-moi vos listes de Noël pour les cadeaux !» Mais sur l'ordinateur, ils faisaient d'autres recherches. Surendettement, refus de crédit, trouver 5000 euros en 24 heures. Et le 24 décembre, à 8h51, ils tapèrent ceci, « Temesta, dose mortelle ». Après leur mort, nous lisons dans l'Obs qu'en France, multiplier les crédits sans être repéré jusqu'au premier incident de paiement est possible. Et ceux qui ont laissé couler Marie et Jeannot disent qu'ils ont respecté la loi, c'est exact. Pendant ce temps, Le Figaro nous dit qu'une belle tradition renaît, le voyage de noces qui forcément doit se dérouler aux Maldives, à Zanzibar et autres paradis. Mais la belle vie, messieurs, dames, n'empêche pas la conscience. Et Society nous invite à admirer Alix Desmoineaux, alias Alix DMX, influenceuse à la plastique parfaite au refait, star de la réalité où elle fut trompée, violente et aimée. Mais de son monde de Rolex, de sa villa à Marbella, de ses 2 millions de followers, elle fait quelque chose en souvenir de la fillette pauvre qu'elle fut, Alix DMX. Milite contre les violences policières et vient à Paris battre le pavé dans les manifs. A-t-elle, cette influenceuse, plus de conscience que les responsables de l'Agence nationale de lutte contre le dopage ? Épinglée par la Cour des comptes, car nous dit Libération, si ces gens-là n'attrapent pas tant les dopés, ils se payent très bien. West France, lui, nous raconte William Deligny, autrefois skinhead néo-nazi violent, qui est devenu moine hindouiste, adepte de la non-violence, et distribue des repas végétariens à Rouen. Les vies sont magiques.
Et on parle enfin de dystopie.
Cet exercice littéraire qui consiste à décrire le monde horrible qui vient. Le roman est comme une pluie lente qui pénètre l'imaginaire, dit le romancier Alain Damasio au 1, qui sort un numéro spécial consacré à ses prophéties glaçantes de science-fiction, et nous dit aussi toute la saveur du procès de Franz Kafka. Le philosophe que nous ranime Libération ce matin ne redoutait pas tant le futur qu'il ne se désolait de son présent moraliste et pudibond. On publie le journal intime de Philippe Muret des années 92-93. Et ce que nous en livre Philippe Lançon, admiratif dans un excellent papier, est fascinant tant Muret annonce notre Michel Houellebecq qui alors n'avait rien écrit, qu'on en juge, pardon, c'est cru. J'ai repris Bourdieu. Le soir arrive et derrière sa porte, comme convenu, Edna m'attend. Elle s'agenouille tout de suite, me la sort, la suce. Je pense à l'impact limité des mesures d'insertion dans la résorption du chômage de masse et des processus d'exclusion qui l'entraînent. Dans l'Union républicaine, on nous dit le bonheur de Gérard Favreau, qui en hommage au grand cycliste d'antan, roule sur un vélo de 1908 dont il a hérité de son grand-oncle. Le Monde enfin nous raconte l'histoire d'un dancing du Maine-et-Loire, dont la pandémie a eu la peau, mais Homeland pourrait renaître. Tcha-tcha-tcha musette bientôt, et les anciens propriétaires tournent dans les balles populaires et vous donnent ce conseil pour la reprise. Commencez pas par un rock, sinon les prothèses vont voler.
Merci Claude Askolovitch pour cette revue de presse. France Inter.